Radio Campus. 88.3 FM.
Mesdames, mesdames, messieurs, je viens de frôler les 70 décibels, mais je peux faire mieux. Eh bien, à la demande générale, je vais tenter les 100 décibels.
Radio Campus.
Sans la radio, c'est que les images.
88.3 FM.
Alors,
on se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans. Et maintenant, c'est l'heure de parler de l'actualité cinématographique. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi la présence de Claude. Bonsoir, Claude.
Bonsoir, Céline. Bonsoir à toutes et à tous.
Et eh bien oui, Marine, tu viens d'arriver. Bonsoir Marine.
En courant. Bonsoir, bonsoir.
Comment tu vas ?
Eh bien ça va.
Tranquille. En pleine forme.
Oui. Yes.
Super. Eh bien voilà, on va être ensemble pendant une heure pour parler de cinéma. Et pour commencer, on va introduire l'émission avec les dates, quelques dates avec l'agenda. Et il y a deux semaines, on avait parlé des Yeux d'Oc. Les Yeux d'Oc est une plateforme consacrée au cinéma documentaire et qui donc a une très bonne sélection de films documentaires, qui organise chaque année une remise des prix avec le prix du public du meilleur documentaire. Une sélection est faite par des bibliothécaires et ensuite... avec cette sélection, le public, de manière générale, peut donc choisir le meilleur documentaire entre quatre films choisis. Et donc, on avait parlé à ce moment-là des quatre documentaires qui ont été sélectionnés. Il y avait La Cravate de Mathias Théry et Étienne Chailloux, Haï de Marine Autogali et Ael Théry, 143 rue du désert de Hassan Ferrani, et il y avait le dernier Dans la terrible jungle de Caroline Cappel et Ombeline Lay, donc ce dernier documentaire qui a reçu le prix du public. Un très très beau documentaire sur un centre qui accueille des enfants et des adolescents autistes ou atteints d'un handicap mental. C'est un magnifique film que vous pouvez donc encore voir sur la plateforme Les Yeux d'Oc. Et donc c'était aussi un événement qui était porté par la médiathèque d'Orléans qui y participe. Et donc des projections avaient été organisées et donc c'est un très grand plaisir de voir ce film récompensé par ce prix du public. Voilà, et dans l'agenda, je voulais aussi qu'on parle de cet événement annuel très connu qui est le Festival de Cannes. Donc on a maintenant accès à la sélection des films qui est la sélection officielle de la compétition et donc cette année encore 21 films et sur les 21 films donc beaucoup de réalisateurs et réalisatrices connus, toujours les mêmes un peu qu'on retrouve, certains et certaines avec beaucoup de plaisir. Donc on aura les derniers films de Aki Kaurismäki, Wes Anderson, Justine Triet, Kore-eda, Nanni Moretti, Catherine Breillat, Marco Bellocchio, Ken Loach et Wim Wenders notamment. Voilà des noms qu'on connaît bien, qu'on retrouve régulièrement. Et donc, on aura certainement plaisir à découvrir leur dernier film. Aussi, ce que j'ai pu voir sur cette sélection, donc sur les 21 films, eh bien, 7 sont réalisés par des femmes. Voilà, on avance doucement, mais c'est encore très peu de films réalisés par des femmes. Les années précédentes, c'était pas mieux. 4-5 films réalisés par des femmes. Donc là, on arrive à 7. On augmente petit à petit. Et particularité aussi, dans les 21 films sélectionnés, il y a 5 films français. Uniquement aussi, c'est pas beaucoup, mais bon, déjà 5 films. Et sur les 5 films, 4 sont réalisés par des femmes. Voilà, donc les cinéastes
tu peux les citer
françaises. Est-ce que je peux les citer? Oui, alors donc j'avais dit Catherine Breillat, Justine Trier, déjà dans les plus connus. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais vu dans les 4 autres, dans les 2 autres? Eh bien, Alice Rohrwacher, si je le prononce bien.
Elle est italienne.
Elle est italienne?
Oui.
Alors attends. Qui j'avais vu si, Ramata Toulayesi, qui est franco-sénégalaise. Et puis, Catherine Corsini. Voilà, je voyais là, sur la liste.
Catherine Corsini, c'est pas sûr.
C'est pas sûr.
Non.
Qu'elle soit française?
Non, qu'elle soit française, c'est sûr, mais que son film soit sélectionné, c'est pas sûr.
Ah, mais pourtant, c'est dans la sélection indiquée.
Oui, mais enfin, je t'expliquerai hors antenne les
d'accord.
raisons.
Donc son film Le Retour.
N'ayant pas eu de décision à ce jour, comme j'avais eu des réserves sur Polanski, sur d'autres, j'ai les mêmes réserves sur Catherine Corsini, donc je ne m'étendrai pas sur ce sujet.
D'accord. Ok. Bon, mais donc peut-être il n'y aura que 4 films français. Alors, du coup, voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas beaucoup de films français, mais en tout cas c'est une.
Il n'y a pas un film de Mai Wen?
Qui fait l'ouverture, mais j'ai pas trop envie d'en parler du film de Mai Wen. Mai Wen, c'est pas, j'aime pas trop son travail. Et puis sur ce dernier film, elle a travaillé avec Johnny Depp. Et dans les personnalités masculines actuellement, j'ai pas trop envie d'en parler. Donc, mais elle fait l'ouverture. Elle n'est pas en compétition du tout.
D'accord. Non, c'est une information.
Et qu'est-ce que je peux dire sur cette prochaine édition du Festival de Cannes? Que le président, c'est Ruben Östlund, qui a donc reçu, oui, qui a reçu 2 palmes d'or, dont la dernière qui est très, très mitigée dans le public, qui était Triangle of the Sadness, le titre anglais. Et donc, il va présider la compétition officielle de cette année. Voilà pour l'agenda. Et donc, on reparlera certainement du festival sur des prochaines émissions. Je vous propose... Oui, Claude.
Je reviens sur des informations plus locales que j'ai déjà eu l'occasion de citer ici, sur une nouvelle association... de cinéma Orléans Unifilm qui projette au Carme le 9 mai à 19h30, je crois, vérifiez l'heure, un film qui je crois est un film de commande, je ne suis pas sûr, sur la violence conjugale qui s'appelle Un regard.
D'accord.
Donc le 9 mai, je crois que c'est 19h30,
tu veux, je vérifie.
Unifilm, Un regard
et donc
au Carme.
Et c'est une association Unifilm qui...
C'est une association de cinéma orléanaise avec des gens d'ailleurs qui sont pour certains de la fac. Et je les connais, hein, j'ai adhéré à cette association.
Qui sont à la fac, mais qui font quelle filière ou...
Je ne sais pas ce qu'ils font, mais bon, c'est une association qui me semble assez sympathique. Ayant beaucoup, je pense, d'entre gens. Et leur film sera aussi projeté, je l'avais dit lors de notre dernière émission, au mois de mai, je crois que c'est le 24 mai ou le 20 mai, à vérifier, au Cercle des Jeunes, Place du Châtelet.
Eh bien, je suis désolée, ce n'est pas encore annoncé sur le site d'ici Mal et Carme, je n'ai pas l'impression.
Un regard, j'ai l'information.
Ah oui, un regard, ok.
Oui.
un film de Alexis Orani.
Oui, qui doit être le président de l'association d'ailleurs.
Peut-être, ce n'est pas précisé, avec l'association Maison sans violence. Donc la projection sera suivie d'un débat avec cette association Maison sans violence. Et est-ce qu'il y a la date ? Oui, mardi 9 mai, donc effectivement à 19h30, oui, comme tu as
D'accord.
dit.
D'accord.
Parfait.
Et donc, c'est un film amateur, avec une équipe,
je sais pas.
Avec des amateurs, non, tu sais pas.
Je sais pas. Ils m'ont l'air quand même assez professionnels.
D'accord, oui, effectivement, une production Onifilm, et c'est soutenu par le CRIJ Centre Val-de-Loire.
Oui.
Ok, très bien, avec beaucoup de comédiens et de comédiennes. Eh bien, d'accord, eh bien, on vous invite à découvrir ce film le 9 mai au Cinéma Les Carmes à 19h30. Avez-vous d'autres dates peut-être à inclure dans l'agenda ?
Non, juste une question, c'est un documentaire ou un film du coup sur les violences tu sais
Je sais pas.
Ouais, ok. Parce que s'il y a des comédiens, bon, ça peut être un documentaire fiction, bien évidemment.
Peut être un documentaire de fiction, ça peut être un vrai documentaire, ça peut être... On aura l'occasion d'en reparler, Marine.
Ouais.
Je sais, en tout cas, il y a une comédienne et un comédien qui sont cités. Après, il y a un chef-op, assistant caméra, il y a une grosse équipe, donc je pense plus à de la fiction.
Ok.
Eh bien, voilà, on peut fermer l'agenda et passer... À l'actualité cinématographique, je vous propose peut-être juste avant une petite pause musicale et en écoutant la bande originale d'un film dont Marine et toi Claude vous allez parler hein, puisque vous l'avez vu, il s'agit de Chien de la casse. Chien de la casse qui est un film, redites-moi, oui, de Jean-Baptiste Durand.
Ouais, oui, c'est ça.
Et donc, vous allez pouvoir en discuter et nous dire ce que vous en pensez juste après cette petite pause. On se retrouve...
Et j'avais eu l'occasion à Angers de rencontrer, pas toute l'équipe du film, mais le réalisateur que j'ai pu interviewer, l'actrice et l'acteur Anthony Barjon.
Mmh. Oh, très bien.
Okay. Oui.
Bon, bah, tu pourras nous en parler. On se retrouve juste après cette pause musicale, juste pour dire aussi que cette musique originale a été composée par Delphine Malocena avec au chant Hugo Rossi et on se retrouve donc après. Bonne écoute.
On court tous après le Khalis. Fin du mois balise, ça devient technique à la pianiste. Vas-y, c'est noir ou blanc comme un pianiste. Parti de zéro, cramé, fallait s'adapter. Ils veulent caner mes héros. Coq ou héros, aucun des deux, moi c'est Bédo Barkberg dans la vallée de l'Hérault. En vrai, sur le port, y'a trop de zonage. Au large, y'a trop de crevards. Faut les tirer par la queue de cheval. Ils ont trafiqué le taux de chômage. On se baisse tout speed, on se laisse tous fuir. Un truc à dire, ben accouche tout de suite. Le temps passe vite, c'est la course poursuite. Galère chaque année, même l'après Covid, j'crois c'est pas gagné. Pareil qu'faut rêver, j'passe du RSA au salaire de Savanier. J'vois pas les étoiles alignées. Ou bien j'suis habité par des calamités. Doué pour imiter l'amitié. Calam, pardonne, j'débite parole comme à Bologne. Les cœurs sont froids, toi c'est l'automne, moi la Pologne. J'suis sur la lune, t'es à Casto. Facile de finir en enfer. Bro, tu t'es raté, mais tu m'appelles mon frère. T'iras gratter comme un astro. J'suis au taquet à la psychiatra. Je le dis, te marre pas. La France fait chanter des Sinatra. Remballe tes romans, tes Siddhartha. L'espoir des blancs qu'on hérite. Mais de ce qu'on hérite, c'est pas si fort. C'est pour Pompe la MIFA. Loulou mérite sa minute en FIFA. Plus rien qui tient. Avec le temps, je fais un smash à Nadal. Je fais un smack à la dare. Nous prennent pour des chiens et nous cachent la babane. Des terres, plus rien nous arrête. Bizarre, tu crois qu'on rigole. Guignol, tu traites de tapette. Mais au village, y'a du people. Comme un délégué, je maintiens la classe. Je me sens comme Goku à la base. On est beaucoup, fais-nous bien de la place. J'arrive avec tous mes chiens de la casse.
Insolence à l'état pur. Pas là si t'as pas ta part. Normal si t'es à la rue, c'est jamais nous quand on passe à la barre. Tu poses la pièce, tu poses la pièce. Et tu pars charbonné. Si j'ai plus de confiance, c'est que je l'ai déjà donné. Peine, endettement, perds tout sur un coup bêtement. De 12 coups, sous vêtements, je la mariage, bagarre et enterrement. Enculé, je m'exporte. À ces bâtards, je m'expose. plus je connais les sons, plus j'aime mon rythme. Ah c'est pas bouger, ah c'est pas bouger. Viens à l'envers, le monde se réveille, je retourne me coucher. Ah c'est pas bouger, bouger. Ah, ah. Yeah. Mets une bière à ma santé, ce soir on va pas rentrer, je suis sous l'immeuble.
Y'a guerre des nerfs, faut s'absenter ces soirées quand t'es rendez-vous toutes les meutes.
J'suis de l'époque, t'as les meules.
Prochain précis, c'est celle du Grand Brésil.
J'me rappelle dans la chambre, on était neuf. Dans la zone, on était mille.
J'repars au bon chat.
Faut faire des rangs comme la branchade.
Décalé, j'tars, c'est la ronca.
La concu s'attarde sur ton cas. Seul avec tes peines. Non, mon frérot, je suis là. Ténèbres au jardin de Ben. J'suis loin de vos histoires. J'voulais pas te blesser, compère. Être mieux, j'ai c'est mon frère. Écrire jusqu'à ma mort. Baiser cette montagne,
le but à atteindre.
Idiot comme tout le monde, on veut rafler le mille.
C'est le début de la fin, je crois que ça commence à peine.
C'est le début de la fin, mais c'est loin d'être fini.
Toujours sur Radio Campus Orléans pour l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Et nous venons donc d'écouter un morceau de la bande originale du film Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, que vous avez donc vu au cinéma. Marine et Claude, oui. Qui souhaitent commencer ?
Écoute, moi je l'ai vu la semaine dernière au Carme avec ma maman, hein, très bonne information, je le sais bien. C'est un film que j'ai pas mal aimé, donc c'est comme tu l'as dit, Jean-Baptiste Durand, il a fait le scénario aussi. C'est avec Anthony Bajon, Galatea Bellucci et Raphaël Quenard qui joue aussi du coup dans Je verrai vos visages que tu avais vu, oui. Claude, mais je sais plus si tu l'avais vu.
Je l'ai vu aussi.
Ok, et ben il joue bref, et du coup moi j'ai beaucoup aimé le rôle de Raphaël Quenard et parce que j'ai pas trop aimé le rôle d'Anthony Bajon. En gros c'est un espèce de film du coup qui se passe dans le sud, en Occitanie, qui a été tourné pratiquement exclusivement dans un petit village qui me semble s'appelle le Pouget, qui est un tout petit village. Et du coup en fait on suit l'histoire de Dog et Mirales. Donc Dog en français ça veut dire de chien, et puis Mirales il me semble que ça veut dire regardez-moi ou regardez-les, un truc du genre. Et c'est vraiment ça correspond en fait à leur fonction
en espagnol, voilà. Peut-être Mirales peut-être,
oui, du coup, oui. Ça... j'ai dit en anglais.
Je supposais, mais vas-y, excuse-moi.
Non, t'inquiète. Et du coup, c'est plutôt un film assez contemplatif. Disons qu'on est vraiment spectateur, pas vraiment d'une histoire, mais plutôt en fait d'une relation amicale plutôt toxique. Qui se déroule en fait tout du long du film. Il y a des hauts, il y a des bas. La relation est un peu bousculée par l'arrivée d'une jeune fille qui s'appelle Elsa, du coup qui est jouée par Galatea Bellucci. Et moi j'ai beaucoup aimé le rôle de Mirales parce que il a vraiment des punchlines en fait tout du long. Il parle beaucoup, ça a été beaucoup reproché un peu dans les critiques que j'ai un peu lues, où en fait il y a beaucoup de gens qui disent ouais il parle beaucoup pour rien, mais moi j'ai pas du tout trouvé. J'ai trouvé que toutes ces remarques elles étaient acerbes, oui, mais hyper bien placées. Voilà. Après, c'est juste que Dog, du coup, je l'ai trouvé un peu fade. Enfin, Claude, on en discutait pendant la pause musicale, me disait oui, c'est son personnage qui est comme ça, et c'est vrai. Mais c'est vrai que ce personnage-là, je l'ai vraiment trouvé fade. C'est son rôle, mais un peu trop, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Claude ?
Alors, c'est effectivement la description d'une relation toxique où un garçon exerce son pouvoir sur un autre garçon. Ce qui, d'ailleurs, l'empêche d'aimer. Parce qu'en fait, c'est quand même l'amour qui est au centre de ce film, avec cette relation excessivement toxique, parce que le fameux Mirales veut avoir absolument sous sa coupe notre ami Anthony Bajon, qui s'appelle, je ne sais plus... Dog dans le film. Bon. C'est un film aussi sur la virilité. Et... Le réalisateur que j'ai rencontré disait « Les choix amoureux font que c'est celui qui aime le plus, c'est celui qui parle le moins. C'est celui qui aime le plus, c'est celui qui parle le moins. » Quel cas de Doc qui parle très peu, parce qu'il n'arrive pas à se soustraire à cette domination purement masculine. Et alors là, on va rentrer dans un débat parce que j'ai soulevé le problème de l'homosexualité, qui est quand même très sous-jacente. Pourquoi j'ai soulevé ce problème de l'homosexualité ? Qui est Miralles ? Un garçon qui vit avec sa mère. D'accord, il cite Montaigne. Bien. Il vit avec sa mère. Son amour, c'est son chien. Trois, il caresse quand même la cuisse de Dog à un moment. Si ce n'est pas un film où l'homosexualité est sous-jacente, moi, je ne sais plus ce qu'est les tendances homosexuelles.
Non, mais c'est vrai, mais c'est toujours subtilement dit. Enfin, même pas dit, en fait.
Alors, réponse du réalisateur, j'ai fait un film sur l'amour sans sexe. Bien. Mais est-ce qu'il nous décrit une relation amoureuse entre deux garçons qui, visiblement, ce n'est pas une relation amoureuse, c'est une relation de domination, une relation toxique de domination. C'est parti de faits réels. Hein. L'auditeur a dit qu'il a vécu dans son village. C'est parti de faits réels. Et ce qui est... Moi, je trouve que c'est assez bien réalisé. On voit très bien la difficulté qu'a Doug à se soustraire de cette domination, notamment lorsqu'il tombe amoureux de cette jeune fille qui s'appelle Galatea Bellucci.
Oui. Après, c'est vrai qu'il a du mal à se soustraire de cette domination, mais j'ai l'impression que, par exemple, notamment avec sa relation avec Elsa, du coup, qui est jouée par Galatea Bellucci, il reste en fait un peu insipide, quoi. Il reste fade, il reste. En fait, il a rien à dire. Moi, ma mère m'a dit oui, mais ça se trouve, c'est. En fait, il est sous l'emprise de Miralles.
Voilà.
Ok. Mais alors, du coup, pourquoi il ne se révèle pas dans les moments intimes où qu'il a avec Elsa, quoi. Parce qu'il y en a quelques-uns dans le film, mais au final, non, il n'est pas plus intéressant que ça, ce personnage.
C'est une relation psychologiquement très introvertie. Donc déjà, ce n'est pas un garçon qui... On le voit très bien qu'il est très introverti, dans la mesure, notamment dans la parole. Dans la parole, il n'est pas capable de dire « je t'aime ». Pourquoi il est très... Et on voit très bien que son geste qu'il a, on ne va pas raconter le film, qu'il a vis-à-vis d'une bande rivale, est un geste uniquement physique et pas de parole.
Oui, mais après, est-ce que ce n'est pas aussi son manque d'intelligence plutôt que sa timidité ?
Des gens comme ça qui sont incapables de dire oui ou de dire non, j'en ai connu et j'en vois encore.
Oui.
Il est ce personnage. Et Elsa, elle lui dit à un moment, mais alors tu vas te déterminer. Et c'est vrai que ça lui plaît cette relation. Il trouve que c'est chouette d'être avec une femme. Mais il est sous la coupe de Miralles. C'est aussi un film sur l'amitié, car lorsqu'on ne va pas, je disais tout à l'heure, raconter le film, mais quand il y a cet événement relativement violent, qui est-ce qui vient sauver Doug ? C'est Miralles, au nom de l'amitié.
Oui.
C'est pour ça que le réalisateur me dit « Oui, mais il y a de l'amour sans sexe. » Bon, moi, je veux bien. Alors, il a fait un film qui s'appelle « L'amour sans sexe », que je n'ai pas vu, mais il a fait un film. Il faudrait rechercher Jean-Baptiste Durand, « L'amour sans sexe ». Donc, c'est un film qui est sur des personnages simples, mais des personnages qu'on rencontre dans des villages, dans des petites villes qui sont très, très authentiques. Et ce Miralles va vraisemblablement évoluer, parce qu'il ne travaille pas, mais il adore faire la cuisine, et on le voit. C'est en fait un petit microscope de gens de petites villes qui vivent dans leur milieu et qui se débrouillent avec ce qu'ils ont, et c'est-à-dire pas grand-chose.
Mais rempli d'authenticité, et ça tombe jamais dans le stéréotype, justement.
Non,
j'ai l'impression
non,
que
non.
Le réalisateur, des fois, veut nous amener vers une pensée, c'est un peu stéréotypé, et puis en fait, au final, non, on se rend compte qu'on avait tout faux sur un personnage ou sur un autre.
Parce que Miralles, qu'on pourrait prendre pour un gros beauf et un gros macho,
oui,
c'est un type... Comment ?
Oui, il est hyper intelligent. Enfin,
il est hyper intelligent, il lit Montaigne, il fait à manger à sa mère. Enfin, c'est la complexité des personnages qui... Alors, faut rentrer dans le film, hein, sinon, si on reste à la surface, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est la complexité des personnages qui fait que ce film mérite attention. C'est quasiment autobiographique. Ce n'est pas moi qui ai posé la question, et c'est un autre journaliste, et il a répondu oui. Bon. Et alors, je ne sais pas qui était Jean-Baptiste Durand, si c'était Miralles ou je ne sais pas. Vu le personnage, je pense que c'est plutôt... Mais peu importe. Alors, j'ai rencontré Anthony Barjon, qui est un garçon qui a été grand acteur, hein, pour La Prière notamment, où il avait été récompensé. C'est vrai que c'est un taiseux, hein, c'est un type très... Mais moi, je le vois toujours petit dans ses films, il est très grand, en fait, il n'est pas du tout petit.
Ah bon ? Ah oui, moi aussi, je le voyais tout petit. Oui, petit alors ou alors pas... Raphaël Quenard est super grand.
Non, il est très grand, et c'est un garçon qui a découvert le théâtre à travers les cours communaux, les cours qui sont donnés par les mairies. Il a découvert le théâtre comme ça. Il est rentré dans une école de théâtre. Il a claqué la porte au bout de 2 mois parce que ça lui plaisait pas. Et quand t'as Galatea Bellucci, alors elle, c'est des cursus multiples. Elle est diplômée d'une école de sciences politiques et de diplomate au Danemark. Elle a fait... une école de cinéma au Canada, et elle a fait du théâtre, elle vient du théâtre à travers le Théâtre du Soleil. Il faut dire que son père travaille au Théâtre du Soleil. Bien. Enfin, elle est, je veux dire que c'est un cursus assez rare. Et dans les jeunes acteurs qu'on découvre, il y a souvent des cursus extrêmement intéressants et variés. Ce n'est pas assez dit, mais on a une richesse chez les jeunes actrices et jeunes acteurs qui est assez rare.
Et qui ne sont pas forcément de formation pour beaucoup. Là, dans le film aussi, par exemple, professionnel, il me semble. Enfin, c'est des acteurs un peu... Bah, Anthony Bargency, mais Raphaël Quenard, il avait fait « Il commence », quoi, tout juste.
Oui, oui.
Et il me semble qu'ils n'avaient pas de formation comédien à la base ou quoi. Et moi, je trouve que c'est ça qu'on voit vraiment dans ce film, c'est l'authenticité, même les échanges. Je pense notamment à ce moment dans le restaurant. Bon, on ne va pas trop en révéler, mais c'est dans la bande-annonce, donc je ne spoil rien. Oui. Mais il y a ce moment d'échange et qui monte en tension. Et moi, j'ai trouvé que les échanges entre les personnages étaient hyper naturels. Et puis même se retrouver sur la place du village. Enfin, moi, je viens d'un petit village. Tous les jeunes ont fait ça, quoi.
Bien sûr, oui.
Même ma mère, elle me disait, moi, dans les années 70, on allait sur la place du petit village et tout. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant.
Oui. Et non, c'est un film très, très authentique. D'ailleurs, Jean-Baptiste Durand est un garçon très... très authentique, pas réservé, mais un peu trop...
Qui est jeune ?
Comment ?
Qui a quel âge environ ?
Petite quarantaine, je pense.
Quarantaine, à peine. Mais je trouve du coup intéressant que dans ce film, il essaye aussi de questionner les relations qu'on peut avoir, que ce soit amicales ou plus, ou peut-être de se poser la question sur l'amour sans sexe. Justement, c'est une possibilité.
Bien sûr.
De casser les codes, effectivement, d'être surpris de... D'un homme qui peut avoir des références, c'est aussi intéressant.
Oui, non, mais c'est la porte ouverte à d'autres types de relations, et pourquoi pas les décrire. Et il est tout à fait ouvert à ce type de questionnement, Jean-Baptiste Durand. Alors, sachez une chose, c'est que le film ne marche pas. Donc, je vous demande d'aller voir ce film. Au CARM,
ils
m'ont dit...
Ah bon, il ne marche pas ?
Non.
Oh, bah moi j'ai entendu plein de gens, tous les gens en tout cas qui l'ont vu, allez le voir, parce que vraiment ils ont tous dit.
Alors c'est peut-être
moi.
Un film qui va marcher avec le bouche à oreille, donc qui va peut-être.
Peut-être.
Ça commence doucement, ça monte. C'est peut-être ça. Mais moi j'ai demandé à. Comment il s'appelait à Romain, il me dit ça ne marche pas. Pourtant il y a une dame devant moi qui allait prendre un billet pour les chiens de la. C'est les chiens de la casse.
Chiens de la casse, oui.
Non, c'est. C'est le prix du jury, je crois. Non, le prix du public. Prix du public.
Au premier plan, au festival.
On a fait le tour, peut-être, parce qu'on arrive à la moitié de l'émission. Mais en tout cas, il donne vraiment envie. Enfin, merci, vous vous donnez envie d'aller le voir. Vous attisez la curiosité. On va enchaîner avec un autre film. Avec Claude, on a vu sur La Dame. On peut peut-être parler du dernier.
Je vais vous laisser la parole. Vous êtes des spécialistes toutes les deux
du documentaire.
Et je voudrais avant, tu vas prendre la parole, Céline, mais je voudrais quand même vous donner un petit moment de réflexion parce qu'on va beaucoup parler d'éthique. Et je vais vous donner la définition du dictionnaire, si encore ça a un sens.
De l'éthique
qu'est-ce qu'un documentaire ?
Ah là là,
on va partir dans des débats, là, on n'en a pas pour une demi-heure, les amis.
On va pas...
Il faudrait vraiment consacrer une émission à cette question, mais peut-être pour juste essayer de faire simple.
Alors, je donne la réponse et je vous laisse la parole. Documentaire. Qui a quel caractère d'un document repose cette gravure ? Film documentaire, un film didactique présentant des faits authentiques non élaborés pour l'occasion.
Ça, c'est la définition.
Oui, ce n'est pas la définition que je souhaitais, ce n'est pas celle-ci. Mais je te laisse parler de l'adamant.
Non, mais sur la question du documentaire, enfin, ça reste un film. Après, je suis pas certaine. Enfin, moi, j'ai pas envie de cloisonner le genre du documentaire comme la fiction ou tous les autres genres. Au contraire, je trouve que c'est plus intéressant quand on s'ouvre et qu'on peut créer d'autres choses comme de la docu-fiction, enfin, de mélanger les genres. Enfin, ce qui est important, c'est ce que va dire le film. Et l'auteur et l'autrice qui est derrière, ce qu'il ou elle veut raconter et la façon de le raconter. Donc peu importe la forme, du moment que c'est bien, que ça nous fait évader ou ça nous interroge ou ça nous fait débat. Enfin, peu importe la forme, je dirais. Mais donc sur l'Adamant, donc le dernier documentaire de Nicolas Philibert, le célèbre Nicolas Philibert qui a réalisé Être et avoir il y a très longtemps, qui a été connu par ce film, donc a continué à faire plein de documentaires. Et donc ce dernier, l'Adamant, en fait, c'est un centre de jour psychiatrique qui a la particularité d'être sur l'eau. C'est une péniche.
Au pied du pont Charles de Gaulle.
Oui, sur la Seine. Ouais. Sur la Seine, donc à Paris. Et ce centre accueille des adultes souffrant de troubles psychiques. Et donc ce lieu leur offre un cadre de soins qui les aide à renouer avec le monde, avec les gens, avec eux-mêmes. Et donc, c'est un lieu atypique qui surtout résiste contre la déshumanisation de la psychiatrie aujourd'hui. Et en fait, ce projet utopiste a vu le jour en 2010 grâce au travail mené conjointement entre un cabinet d'architectes, les soignants et les soignantes et des patients et des patientes en respectant aussi des normes haute qualité environnementale. Donc, c'est un projet vraiment au départ utopiste, mais qui a vu le jour. Et ça fait plaisir de voir ce type de projet arriver au bout et qui a été bien mené. Et donc, Nicolas Philibert s'est rendu sur l'Adamant lors d'un atelier rencontre qui était organisé pour rencontrer les patients et les patientes pour parler de son travail cinématographique. Et il en est sorti vraiment revigoré, avec l'envie du coup de réaliser un documentaire sur l'Adamant. Et donc il est venu présenter son film à Orléans, au Cinéma des Carmes, et il expliquait avoir construit le film au fil des tournages. Il n'avait pas forcément préorganisé tout ce qu'il allait filmer, mais plutôt de filmer en improvisant pour ne pas chercher à filmer l'attendu, en fait, de ne pas chercher à ce que lui, il avait pu conclure de ce lieu et de chercher ce qu'il voulait en dire. Non, il a posé sa caméra et il s'est installé. Il a pris le temps de filmer chaque personne, que ce soit des patients, des patientes, mais aussi des soignants et des soignantes. Et ils sont à chaque fois filmés de la même façon. Et du coup, ça donne la sensation où tout le monde est au même niveau. Et ça, c'est très agréable. En fait, tout le monde a le même niveau de parole, d'importance. Et c'est vraiment agréable. Même si la forme cinématographique est assez classique, avec des portraits qui se succèdent, mais qui fonctionnent parce que l'écriture est vraiment basée sur la parole des gens. C'est pas lui qui va interroger, c'est les gens qui parlent, c'est eux qui racontent, qui parlent de qui ils sont, pourquoi ils sont là. Et puis on assiste à des scènes, à des ateliers. il y a un café, il y a des réunions. Donc avec toutes ces séquences, on découvre le quotidien de ce lieu atypique, de comment y elle travaille. C'est vraiment très intéressant, et comment on découvre la vie du lieu et comment ce lieu est organisé simplement, juste en regardant et en écoutant. Et ça, je trouve que c'est la force de ce documentaire, du travail de Nicolas Philibert. Et le personnage aussi qui est vraiment important dans ce film, c'est le lieu, c'est la péniche, qu'il filme vraiment intelligemment, avec les détails architecturaux, avec des détails sonores qui rend cet hôpital de jour vraiment, vraiment singulier. À rappeler aussi que ce documentaire a reçu l'Ours d'Or à la Berlinale donc cette année. Et dans mes lectures, j'ai appris que Sur l'Adamant était le premier volet d'un triptyque qui sera consacré à la psychiatrie. Donc voilà, j'ai hâte de voir les deux prochains films de cette trilogie. Et Claude, du coup, tu... tu veux rajouter, qu'est-ce que toi t'en as pensé ? Est-ce que tu voulais parler de l'éthique ?
Oui.
Je crois.
Donc,
ou du documentaire, de manière générale.
Si le Larousse a encore un sens, il dit qu'un film documentaire a un caractère didactique ou culturel visant à faire connaître un pays, un peuple, un artiste, une technique.
Oui.
Bien. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce film-là, c'est d'abord qu'il privilégie beaucoup l'esthétisme.
Oui.
On fait beau. On va faire très, très beau. Alors, je rappellerai quand même que j'ai beaucoup de mal avec les documentaires. Je rappellerai qu'un documentaire magnifique qui s'appelait The Taste of Cement, le goût du ciment, d'un Syrien que j'avais rencontré à La Rochelle, qui n'a pas eu le prix parce que je connaissais un des membres du jury qui n'aurait pas dû me le dire, mais il me l'a dit. À l'unanimité, ils avaient tous voté pour ce film. La présidente s'y est opposée en disant « Non, c'est trop beau pour un documentaire. C'est trop beau pour un documentaire, donc on ne récompense pas ce film.
Bon. » C'est bête. C'est une grosse erreur.
Grosse erreur ou pas, moi, ça me gêne beaucoup, déjà la sélection du documentaire et puis cet esthétisme. Je rappellerai qu'un petit cinéaste américain indépendant, qu'on connaît bien à la bande de l'écran, John Cassavetes, grand cinéaste américain, disait... Ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est pas comment c'est filmé, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qui est dit. Et maintenant, c'est faux. C'est faux. Il faut qu'un documentaire soit beau, qu'il ait de l'esthétisme, qu'il soit... C'est pour ça que je me rapproche plutôt des docufictions, parce que, en allant sur l'esthétisme, est-ce que... Moi, je doute de la sincérité de ce film. Est-ce qu'on voit... Est-ce que si j'allais, moi, à l'Adamant, passer un après-midi, je verrais ce que je vois dans le film. Je ne suis pas sûr.
Oui, mais si tu pars de ce principe-là, tous les documentaires pourraient être comme ça. Ils se construisent au fil de l'année. Pour moi, la beauté, ça, je pense qu'il ne faut pas confondre beauté et superficialité. Pour moi,
non,
je n'ai pas
dit que c'était un film superficiel. C'est un film qui est extrêmement bien filmé. C'est la parole qui est au centre de tout. On est bien, d'autant plus que chez ces gens-là, la parole est très importante pour eux, pour dire ce qu'ils sont et quel est leur mal, c'est la parole. Donc ça, c'est très bien. Moi, je trouve que... Mais je doute parfois de la sincérité, pas du réalisateur, mais des réalisateurs dans ce type de documentaire. Je préfère je crois que c'est Marianne Otero, hein, c'est ça ?
Oui.
Grande réalisatrice de documentaires belges, qu'on ne cite pas souvent, qui quand elle fait un film sur l'autisme, filme pendant 5 ans avec, je crois, je ne sais plus combien d'heures de roche, mais phénoménal. Et elle fait un film. Là, moi, je l'avais rencontré au Carme. Je crois, alors peut-être qu'elle masque des choses, mais je crois à sa sincérité. J'ai discuté après la rencontre avec Nicolas Philibert. Je n'ai pas posé de questions, j'avais pas envie. J'ai discuté avec une femme qui a travaillé dans ces centres. Mais elle me dit, Claude, tu voulais quand même pas qu'on monte quelqu'un en crise ? Pourquoi pas, si ça existe ?
Oui, mais est-ce que c'était le parti pris ? Est-ce que c'était vers là où le film voulait
aller ? Ah, bah oui, mais il fait un documentaire, il est censé
réfléchir.
Il est censé refléter ce qui s'y passe. Tout, bien sûr qu'il est obligé de faire des ellipses, qu'il est obligé. Mais est-ce que alors une autre personne qui connaît très bien ces hôpitaux de jour, ce sont des hôpitaux de jour. Elle me dit en général, il n'y a pas de gens qui sont en crise. Pour venir ici, il faut pas être en crise.
Il a répondu à cette question, parce que cette question a été posée pendant la rencontre, et il a bien expliqué, alors déjà ce sont ses choix, c'est lui, il fait un choix dans ce qu'il veut montrer, et il a aussi expliqué qu'il ne voulait pas non plus, une personne qui est en crise n'a pas forcément conscience de son état, et n'a pas forcément envie d'être filmé dans cet état, et n'a pas du coup la possibilité de dire non. Là, à ce moment-là, il y a comme une perte de consentement que Nicolas Philibert veut respecter. Hein, et qui,
serait-ce que le droit à l'image, décide, hein, il est obligé. Hein.
Et décide donc de ne pas montrer, effectivement, de ne pas filmer ces périodes de crise. C'est un choix. Et pour tout documentaire, pour tout film, l'auteur et l'autrice derrière montrent ce qu'il lui souhaite montrer. C'est subjectif. Hein. Un film, c'est toujours subjectif.
Et c'est un parti pris.
C'est un parti pris. Tu peux pas être objectif et tout montrer. Oui. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait passer 10 ans dans un lieu ou 10 ans avec une personne. Et puis même, c'est possible aussi. Il y a des projets qui se font comme ça. Et même dans cette situation, tu fais aussi des choix. Tu peux pas tout montrer aussi dans un film.
Et souvent, en plus, tu te fais recaler parce que du coup, ton dossier est trop large ou trop. En gros, il faut souvent se concentrer sur une idée, un parti pris, quoi.
Ah, mais sur les programmateurs de festivals, je suis d'accord, hein. Sans ça.
Ou même après sur, par exemple, les prods ou les trucs comme ça. Après, à notre petit niveau à Orléans, on voit bien que si tu n'as pas un dossier avec vraiment un parti pris, tu ne peux pas te ramener et te dire « Tiens, je vais faire un documentaire sur l'hôpital psychiatrique. Il y a trop de choses à traiter en 1h30 ou 52 minutes. » Pour moi, ça ne me pose pas de problème qu'il n'ait pas voulu montrer des gens en crise tant que son parti pris est là. Et puis, tu me disais que c'était un personnage principal, le bateau. Donc,
effectivement. C'est un choix pour lui de montrer ce lieu qui est un projet, c'est un projet utopique qu'il a voulu mettre en avant, et la psychiatrie l'intéresse beaucoup, et du coup il en fait quand même une trilogie. Il va y avoir deux volets, ça veut dire qu'il quand même alors que c'était pas prévu au début, il a vraiment cette conscience qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la psychiatrie et qu'il veut en faire d'autres films. Et c'est pas pour autant qu'il va tout dire sur la psychiatrie, il va encore une fois montrer ce qu'il a envie de défendre dans la psychiatrie. Il a envie qu'on ait un regard différent aussi sur ces personnes qui ont un handicap.
Oui, bah oui.
C'est ça aussi qui est intéressant. Moi, il a été bienveillant et je trouve que c'est, oui, les personnages sont touchants.
Oui.
Et je trouve
que
c'est bien aussi.
Oui. Mais je répète ce que je disais tout à l'heure. Si j'allais passer un après-midi.
Mais c'est pas le but.
Le but, c'est quoi ?
Et puis tu parlais de la Belge qui a réalisé un film sur l'autisme sur 5 ans, c'est le même principe. Si tu y allais sur une journée, je pense pas que tu retrouverais ans tout ce qu'elle a filmé.
Non, oui, je suis d'accord, mais là, sur l'autisme, tu es obligé de faire ça très. Si tu veux vraiment faire quelque chose de sérieux, pour voir les évolutions, les progrès, il faut attendre des. Il faut voir des années, il ne faut pas...
Mais ce film est sérieux. Ce film, il montre comment on peut faire de la psychiatrie autrement. Parce que ces lieux-là, ce centre-là qui est si particulier, il n'y en a pas ailleurs. C'est aussi montrer ce qui est possible de faire. Il montre les bons côtés, justement, pour dire vers où on peut aller. Comment humaniser la psychiatrie, c'est justement ce qu'il veut défendre.
Je vous rappellerai quand même, j'aime pas parler comme ça, mais vous êtes assez jeune, qui est Orléans... a été un centre de l'antipsychiatrie.
Avec le centre de maison,
oui,
tu veux parler.
Ah oui. Avec des... Moi, je connaissais... je suis en train de chercher son nom, celui qui est le plus connu.
Oui, Robillard, André Robillard.
Non, c'est pas... Bref, il y avait Chaloux, que je connaissais, puis Gélis, ça c'est le peintre. Un nom comme...
Tu veux parler d'un patient ?
Non, pas d'un patient, de psychiatre, qui a été un des gros centres de l'antipsychiatrie à Orléans. Et tous ces gens-là avaient commencé l'antipsychiatrie à Saint-Chély-d'Apcher, dans la Lozère. Voilà où a commencé l'antipsychiatrie en France. Je parle de ça, c'est quand même les années 70. Hein. Donc, les tentatives de soigner autrement, c'est pas nouveau. Hein.
Ça mais tout à fait. Mais je trouve que cette initiative, toi, de l'Adamant, est vraiment, vraiment pertinente. Et si on pouvait aller vers cette direction, ça me semble intéressant.
Je vous retrouverai, pendant que vous parlerez d'un autre film, je pense pouvoir vous retrouver le titre de l'ouvrage.
On va faire une petite pause musicale.
Non, mais je voudrais quand même répondre. Marine, tu m'as posé une question qui était importante en disant, je ne sais plus si tu te souviens de ta question, où je disais, bon, il a peut-être édulcoré, est-ce que si j'allais sur le lieu, c'est ce que je verrais, je ne sais pas. Tu m'as posé une question et je n'y ai pas répondu. Mais ta question était intéressante.
Oui, et bien moi non plus, j'ai une mémoire des poissons rouges. Non, je sais, tu disais en fait que pendant, si tu te rendais, en fait, il avait choisi de ne pas montrer des choses. Mais du coup, c'est tout objet de documentaire de ne pas montrer certaines choses. Tu ne peux pas montrer tous tes rushs ou tout ce que
tu
as filmé. Et je te disais, en gros, tu disais, ouais, bah alors ça se trouve, il y a un manque de sincérité derrière ça, mais...
C'est pas un manque de sincérité, il y a une pensée dominante, il y a une culture dominante, et moi je dis qu'il y a une image dominante en ce moment. Je suis désolé, dans le documentaire,
je suis pas d'accord avec toi. Enfin, ça veut pas dire que tu fais des choix, qu'il y a un manque de véracité, tous les films sont subjectifs, tous. Mais une
bien sûr, mais quand tu es en fiction, tu sais, on le sait très bien. Mais dans le documentaire, de toute façon, faire du documentaire au cinéma, je pense que c'est un non-sens, parce que déjà, le mensonge est déjà contenu dans la technique du cinéma. Déjà.
Mais non, je suis pas d'accord avec toi. Bon, on va... Parce qu'on arrive dans le dernier quart d'heure de l'émission.
Oui, et il y a d'autres films à chroniquer.
Et oui, et j'aimerais juste qu'on essaie de faire une petite courte pause musicale avec un morceau de la bande originale du film Les âmes sœurs d'André Téchiné. On va essayer d'en parler rapidement. Mais,
oui.
Composé par Mathieu Lambollet. Et puis on se retrouve tout de suite après. Restez toujours sur Radio Campus Orléans. Et on continue de parler de cinéma après ce morceau. Toujours sur Radio Campus Orléans, on vient d'écouter un morceau de la bande originale Les âmes sœurs, composé par Mathieu Lambollet. Et on va en parler rapidement de ce film, Claude, qu'on a vu donc tous les deux. assez rapidement parce que il y a peu de choses à dire sur ce film.
Tu commences.
C'est l'histoire d'une relation fusionnelle entre un frère et une sœur, David et Jeanne, qui sont interprétés par Benjamin Voisin et Noémie Merlant.
Exceptionnel, une fois de plus.
Tu parles des
Noémie deux.
Noémie Merlant. Et donc cette relation qui sera remise en question après le retour de David grièvement blessé au combat. Je suis plutôt mitigée dans ce film d'1h40. André Téchiné aborde beaucoup de thématiques sans vraiment les approfondir, entre le lien affectif et moral, entre un frère et une sœur, le traumatisme de la guerre, la transidentité, donc beaucoup de sujets intéressants. Et il veut dire tellement que ça se ressent dans son écriture, qui est très dense. Et j'ai vraiment eu la sensation qu'il avait tourné un film de 6 heures et qu'après il avait coupé, pour que ça fasse 1h40. Et donc ça me donne cette sensation de trop de cuts. Et toute la première partie à l'hôpital qui est à la fois longue et trop cutée, enfin, je trouve qu'au final, son propos n'est pas bien défini. Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment à la fin? Et aussi, ce que je veux dire, tu dis que Noémie Merlant est incroyable. Je suis un peu mitigée, mais je pense que c'est un problème de direction. Alors que Noémie Merlant, mais comme Benjamin Voisin, qui ont été tous les deux césarisés dans leur précédent film, je trouve qu'ici, ils n'ont pas vraiment leur meilleur rôle et que du coup, le trio avec le réalisateur André Téchiné ne fonctionne pas vraiment. Voilà mon avis.
Alors moi, deux choses. D'abord, dans ce film, l'élément déclencheur arrive. Au cinéma, il faut toujours un élément déclencheur dans un bon scénario. Et l'élément déclencheur arrive très tard dans le film. Par rapport, et puis la deuxième question, c'est qui fait la narration d'un acte qui n'est pas du tout anodin, qui s'est passé entre les protagonistes, l'acte pas anodin, et il ne sait pas quoi en faire, en fait, de cet acte, et il le noie, parce qu'il va ressurgir, cet acte va peut-être se renouveler, il noie ça dans l'histoire d'un garçon qui est devenu amnésique, qui récupère la mémoire. En fait, le nœud de son sujet, on le voit bien, mais il aurait fallu qu'il y ait un autre scénario autour de ça. Et je pense que son scénario, il ne fonctionne pas bien, quoi.
Oui, non, effectivement, il y a un problème d'écriture, je suis tout à fait d'accord.
Il y a un problème, totalement le problème.
Il devrait aussi faire une trilogie pour un film par thématique.
Téchiné, il met beaucoup de motos dans ses films, je dois aimer la moto, parce que je l'avais dit la dernière fois, c'est pareil. Mais cet acte, qui n'est pas un acte anodin, qui est un acte violent, il ne sait pas en quoi en faire, et il noie ça autour d'un scénario. Franchement, sur la même chose, il y avait mieux à faire. Et
ouais,
quelqu'un qui connaît bien le cinéma me disait, quand on ne sait pas en quoi en faire, on met de l'amnésie, on est tranquille. je crois que c'est ce qu'il a fait.
Il y a la relation, il y a de l'inceste, non? Parce que c'est vrai que dans la bande-annonce, c'est criant.
C'est
l'acte pas anodin dont tu parles.
On a essayé de ne pas spoiler, parce que c'est lourdement suggéré dans le film aussi. Et d'ailleurs, c'est plutôt parce qu'on ne voit rien, mais on le sent, on le sait. Et ça, c'est plutôt bien fait.
Ça arrive petit à petit, mais ça arrive tard.
On l'attend, justement. On va l'aborder, mais ça arrive à trois quarts du film.
Il aurait pu beaucoup s'interroger autour de cet acte. La Noémie Merlant, puisqu'elle est tout à fait concerné par cet acte. On aurait pu faire quelqu'un d'ambigu. J'y retourne, j'y retourne pas. Ça aurait été intéressant de tourner autour de... Mais il en fait rien, quoi. C'est ce que je... Non, le scénario n'est pas
c'est
bon.
C'est pas abouti, oui.
Je vous laisse parler d'autres films.
Eh bien, on a quelques minutes, 5-6 minutes.
Marine, elle a une...
Alma Viva, essayer.
Ouais, on peut peut-être essayer. C'est
film
parti, je vais partir très vite. Ok.
Film portugais.
C'est un film portugais, du coup. Ouais. Ça a été réalisé, scénarisé par Cristés Alves Meira. C'est son premier long métrage. Elle avait déjà fait des courts-métrages.
Oui, c'est un premier long métrage.
Mais c'est un premier long métrage plutôt. Moi, j'ai J'ai vraiment adoré. Il y a sa fille qui joue dedans, qui s'appelle Loua Michel, et du coup qui interprète Salomé.
C'est la petite,
c'est l'enfant. C'est la petite qui joue magnifiquement bien. Et en fait, elle a fait appel à un casting pour la plupart. Je crois qu'il y a une personne qui est comédienne de formation. Sinon, en fait, elle a été faire du casting dans les petits villages au Portugal, quoi. Et ce film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est contemplatif. Je sais pas, il m'a procuré une sensation de sérénité, de bien-être. J'ai l'impression que c'est un espèce de film un peu comme les chaussettes pilou-pilou qu'on enfile ou un petit plaid. Tu vois, c'est genre, t'aimes bien regarder ça. Et du coup, en fait, ça raconte l'histoire d'une petite fille, du coup, qui passe l'été au Portugal dans un village montagneux reculé chez sa grand-mère qui vit toujours avec deux de ses enfants, plus bof, c'est une grande famille. Et du coup, elle traite, la réalisatrice, du coup, de beaucoup de sujets. C'est d'abord la vision de cette petite fille. En fait, tout le film se passe d'après la vision de cette petite fille, de ses croyances. C'est un portrait de femme, parce que du coup, ça suit trois générations, la petite fille, la grand-mère, la mère et les sœurs, enfin les tantes, etc. Et du coup, il y a aussi un mélange de genres, parce que c'est à la fois, en fait, un film qui surfe sur la comédie, le drame, qui flirte aussi avec le fantastique, avec l'horreur certaines fois, mais jamais en fait dans cette espèce de, je sais pas, de truc gore ou de truc malaisant, quoi. C'est vraiment, c'est tout est joli, tout est beau. Il y a pas beaucoup de pudeur dans ce film, mais il y a beaucoup d'intimité. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment quelque chose en fait qui se laisse regarder, quoi. Elle brouille en fait les frontières du réel et du monde onirique, et puis du monde aussi de la superstition, des croyances. Et il y a ce point de vue du coup de cette petite fille où en fait on te montre des choses, les sorcières, les mauvais sorts, les choses comme ça. Mais vu que la petite fille elle y croit, bah, le film y croit aussi. Et j'ai trouvé ça hyper habile. Et puis tous les personnages sont hyper intéressants. Comme je disais un tout petit peu plus tôt, c'est vraiment un portrait de femme, mais il y a aussi les personnages masculins sont hyper intéressants. Il y a son oncle qui est aveugle, mais c'est celui qui voit le mieux en fait dans toute la famille, et qui te sort des phrases. En fait, il parle pas beaucoup, mais à chaque fois, il est en mode « Oh mon Dieu, ces phrases sont folles ». Enfin, moi, genre, il dit par exemple un truc, je vais peut-être un peu me gourer, hein, mais il dit « De toute façon, toute femme qui réclame sa liberté et qui est indépendante finit par se faire traiter de sorcière ». Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, et ça m'a rappelé le livre de Mona Chollet, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », qui est un livre pas mal, hein, qu'il faudrait que vous lisiez si vous en avez l'occasion. Et il en dit une autre aussi qui m'est restée. Il a dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent souvent les yeux des vivants ». Et ça, j'ai trouvé trop joli. Trop joli comme expression. Bref, c'est une ode à la poésie. Ce film, il se laisse regarder vraiment tranquillou, quoi. Tranquillement, c'est joli, c'est beau. Et puis, enfin, vraiment, allez le voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah voilà.
Oui, j'ai très envie de le voir. Effectivement, tu donnes très, très envie. En plus, tu dois voir le Portugal, les beaux paysages du Portugal. C'est aussi sympathique. Mais oui, avec plaisir, on ira le voir, on te dira ce qu'on en pense. Donc c'est un premier film de cette réalisatrice, d'accord, donc à suivre de près alors du coup.
Ouais. Non, et puis elle a vraiment cette volonté. En fait, à la base, elle vient, je crois qu'elle est comédienne. Après, elle a fait de la mise en scène, elle a fait du documentaire. Et elle est vraiment dans cette volonté, en fait, de faire un peu tout maison. Parce qu'elle est retournée dans la région de sa mère, du coup, et de sa grand-mère. Elle a fait tourner sa fille, elle a fait appel à des acteurs maison, quoi. Enfin, maison, dans le sens où ils y connaissaient que dalle. Mais du coup, ressort de tout ça, et justement, une grande sincérité, une grande authenticité et une grande beauté.
Ah mais oui, c'est très intelligent du coup, effectivement, de travailler comme ça sur du local. Ça me fait rappeler le film coréen, voilà, j'ai retrouvé le titre, Le retour des hirondelles de Lee Roo-jun, qui est pareil aussi, qui fait travailler toute sa famille et aussi les gens locaux, le village où il a grandi. Enfin, ça me fait penser à ce film aussi, qui est aussi impressionnant et sublime. Donc j'ai hâte de le voir aussi.
Il y a un renouveau du cinéma portugais, parce qu'à Angers, il y avait deux films portugais, notamment ce film, et un autre, moi, que j'ai trouvé, j'étais étonné qu'il ne soit pas récompensé, mais enfin bref, c'est faux pas, qui s'appelle Suro. Suro,
c'est le... Oui, tu nous en as parlé.
Comment s'appelle
C'est le... La sève.
Non,
la
c'est
sève
pas le...
Suro.
Oui, c'est le... Comment s'appelle les arbres qui donnent du... L'écorce d'arbre qui donne de...
Le sureau, donc le sureau.
Oui, sureau, non, mais c'est... bref. je vous dirais, je vois la mémoire. Bon, alors ce film sort. Moi, j'ai interviewé l'actrice qui parle parfaitement le français et qui ne rêve que de jouer en France, qui avait été nommée au. C'est les quoi? C'est les. Je sais plus. C'est pas les Césars. C'est
alors les Oscars.
Non, pas les Oscars. En Espagne.
En Espagne.
Elle avait été, c'est un film portugais.
Les Goya.
Les Goya. Elle a été nommée au Goya, elle n'a pas été récompensée. Mais c'est un film qui avait été nommé au Yoga pour.
Au Goya.
Au Goya plusieurs fois. Et
Goya,
je viens de retrouver le nom de l'antipsychiatre à Orléans. C'était Roger Zantis, qui est décédé en 2019. Dont son célèbre ouvrage qui a fait connaître l'antipsychiatrie en France, qui s'appelait les murs de l'asile et qui datait de 70, c'est bien ce que je me disais. Donc l'antipsychiatrie, c'est pas récent, ça date depuis un certain temps.
Eh bien, ce sera le mot de la fin parce que c'est la toute fin, les dernières secondes. On vous remercie de nous avoir écoutés et surtout restez sur Radio Campus parce qu'il y a maintenant